au pays des contes. Bonjour. Pour les gourmands, oh, et les autres, voici des contes de gourmandise. Eh bien, bon appétit. Pour commencer, une légende chinoise. Il y a longtemps de cela, aussi longtemps que l'on ne sait plus quand c'est arrivé, une vieille femme vivait chez sa belle-fille. Son mari était mort, son fils était mort. À part la veuve de son fils, elle n'avait personne au monde. Or, sa belle-fille était une femme avare et méchante. Elle maltraitait sa belle-mère, la laissait quasiment mourir de faim, et disait « Oh, les vieux doivent comprendre que leur place est dans la tombe, et non chez ceux qu'ils ennuient. » Un jour, trop malheureuse d'entendre ça, la vieille femme voulut en finir. Elle descendit à la rivière, et elle allait se jeter à l'eau, quand un petit oiseau vint se percher sur son épaule. « Ne te désole pas, dit l'oiseau. Tout le mauvais va partir, le bon va arriver. Tu vois ce saule? Prends l'argile qui se trouve dessous. Façonne-en une coupe et dessine au fond un dragon. Ce dragon te donnera tout ce que tu souhaites. » Et l'oiseau s'envola. La vieille prit de l'argile qu'elle malaxa bien et en fit un bol tout rond, comme la moitié d'un petit melon. Elle le fit sécher au soleil, dessina au fond un joli petit dragon rose et vert et fit cuire le bol dans le four. Quand le bol fut prêt, la vieille dit « Je voudrais bien que le beau dragon que voici aille se cacher sous du riz avec un peu de légumes et du poisson. » Elle avait à peine fini de parler que le bol se remplit de riz fumant avec plein de bonnes choses dessus. En bénissant le petit oiseau, le gentil dragon et la veine d'argile sous le saule, la vieille femme mangea à sa faim pour la première fois depuis longtemps. Et désormais, la vieille se sentit moins malheureuse. Sa belle-fille continuait à lui dire des choses désagréables, mais le ventre plein digère plus facilement les injures. Et surtout, savoir que le petit dragon rose et vert prenait soin d'elle faisait chaud au cœur de la vieille femme. Elle se sentait moins seule. Elle n'avait parlé de rien à sa belle-fille et se servait du bol en cachette. Mais la méchante femme se doutait de quelque chose en voyant sa belle-mère se porter bien mieux tout en mangeant moins. Elle la guetta et la surprit en train de manger un plein bol de riz au poulet. Et elle cria en colère « Je vous y prends !» « Vous avez volé mon souper !»« Non, non, je n'ai rien volé, » se défendit la vieille. « C'est le dragon qui me donne à manger. Le dragon qui est au fond du bol. »« Un bol ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il faut dire qu'en ce temps très lointain, les gens ne connaissaient pas les bols. Ils mangeaient sur des feuilles de chou, ce qui n'était vraiment pas commode pour la soupe. La belle-fille a arraché le bol des mains de la vieille. « Un dragon, une coupe magique, et puis quoi encore ? Mais nous allons bien voir. » Elle vida le bol et cria en regardant le petit dragon rose et vert « Hé, toi, sers-moi de la cervelle de dragon et du foie de phénix !» Elle dit cela et le petit dragon rose et vert se mit à grandir, grandir, grandir. La femme poussa un cri et jeta le bol qui se brisa en mille morceaux. Mais il était trop tard. Devenu énorme, le dragon se dressait devant la méchante femme et il l'avala. Après quoi, il disparut. La vieille restait seule maîtresse de la maison. Elle remodela un autre bol, tout pareil, avec un charmant petit dragon rose et vert au fond. Mais jamais ce dragon-là ne lui donna à manger. Il est vrai qu'elle n'en avait plus besoin. Mais en la voyant se servir de son bol, les gens du village se sont dit que c'était autrement pratique que leurs feuilles de chou. Et ils se sont mis à fabriquer des bols semblables ornés de jolis dessins. Peut-être espéraient-ils ainsi tomber un jour sur l'argile magique et faire le bol qui vous donne tout ce que vous souhaitez ? Oh, sauf la cervelle de dragon et le foie de phénix, bien entendu. Nous sommes maintenant au Vietnam. Il y a très longtemps, le roi Ung Dao Dai Vuong avait 22 fils, tous beaux et valeureux. Il leur dit « Pour gouverner un pays, courage et sagesse ne suffisent pas. Il faut de l'imagination. Les fêtes du Tet approchent. Me succédera sur le trône celui d'entre vous qui me fera un cadeau inoubliable. Un cadeau aussi agréable aux dieux qu'à moi-même et qui fera plaisir à tout notre peuple. » Il dit, et ses fils s'en allèrent chercher au loin le merveilleux cadeau. Un seul resta chez lui, Lung Li, le moins aimé des fils du roi. Il était pauvre. Il n'avait qu'un champ de riz qu'il cultivait avec ses deux serviteurs. Et ce jour-là, il devait moissonner ce champ car le riz était mûr. Les rizières s'étendaient en une mer vert jaune, bordée par le vert sombre des forêts. Au-dessus s'incurvait la coupe renversée d'un ciel blanc de chaleur. Un serviteur dit « Les anciens disent que le ciel est rond, mais que la terre est carrée. Alors, où sont les quatre coins de la terre ?»« Là où se lève le soleil et là où il se couche sont deux angles de la terre, » répondit Lung Li. Et les deux autres angles sont juste entre eux, l'un en face de l'autre. » Tout en parlant, Lung Li pensait au cadeau de son père. Brusquement, il s'écria « Je sais ce que je vais offrir à mon père. Je vais lui offrir le monde sous la forme de deux gâteaux. » Et Lung Li confectionna deux gâteaux. L'un, représentant le ciel, était rond et blanc, fait de la fine fleur de farine du meilleur riz. L'autre représentait la terre. Il était carré et pour figurer les bêtes et les plantes qui peuplent la terre, il y avait une farce de viande avec des fèves et des oignons. En image de la forêt qui entoure la terre, sur les quatre côtés du gâteau, il y avait des feuilles odorantes, song. Le roi vit les gâteaux et les trouva beaux. Il les goûta et les trouva bons. Et quand il sut ce qu'il représentait, il les trouva merveilleux. Et il dit à Lung Li, « Ton cadeau est agréable aux dieux, car il loue l'univers, leur œuvre. Il est agréable ô combien à ma gourmandise. Et quand notre peuple en connaîtra la recette, il en aura grande joie et plaisir. Un plaisir inoubliable. » C'est ainsi que Lung Li, le fils mal-aimé de Ung Vuong, devint le successeur de ce roi. Et c'est ainsi que ces gâteaux sont devenus les traditionnels gâteaux de fête pour les peuples du Vietnam. Le gâteau ciel pour la fête du Tet et le gâteau terre pour les fêtes de mariage. Oh, des siècles ont passé depuis. Aujourd'hui, les gens savent que la terre n'est pas carrée. Mais au repas de mariage, ils continuent à servir le gâteau terre. Carré, farci de viande, de fèves et d'oignons, et entouré sur les quatre côtés d'odorantes feuilles de la plante song. Voici un autre conte, au temps où les Turcs faisaient la loi en Herzégovine. Tout le monde à Mostar connaissait Héro. Un gars plutôt simplet à le voir, mais en fait, une noisette dure à croquer. Un de ceux qui savent se tirer du feu sans se brûler, de l'eau sans se mouiller. Pour sa fête, Héro s'était offert un cochon de lait, rôti, avec de petites pommes rissolées. Au moment de se mettre à table, Héro s'est aperçu qu'il n'avait plus de vin. Il a couvert le plat et il allait sortir quand son voisin Laga, un dignitaire turc, a passé la tête par la porte. Qu'est-ce qui sent si bon chez toi, héros ? Sauf votre respect, c'est du cochon rôti, pour ma fête. Les Turcs ne mangent pas de porc, ça leur est défendu par leur religion. Et Laga a fait une moue dégoûtée. Oh, comment pouvez-vous manger l'incroyable saleté ? Et un jour de fête encore ! Héros a cligné de l'œil. Hey, « Hé, Aga, un petit porcelet grassouillé, ce n'est pas sale du tout. C'est même fameusement bon. Et si vous voulez en goûter, l'Aga a levé les bras au ciel. Tu n'y penses pas, un tel péché. Mais je voudrais bien voir à quoi ça ressemble. Eh bien, patientez un moment. J'ai une course à faire. J'en ai pour 5 minutes et je reviens. Vous regarderez alors à votre aise. » Et si le cœur vous en dit, mon invitation tient toujours. Héro pensait n'en avoir que pour quelques minutes, mais il y avait du monde partout. Il a mis une bonne demi-heure à faire ses achats. Pendant ce temps, Laga, sagement assis près de la table, regardait le plat couvert, en respirait l'odeur. Une odeur tellement alléchante que Laga a soulevé doucement le couvercle. Oh, le cochon de lait était là, dodu, doré, appétissant à en avaler sa langue. Laga a tendu la main, a touché la peau dorée, croustillante, puis l'a mis le doigt dans la bouche. C'était encore meilleur que ça n'en avait l'air. Laga a arraché un tout petit morceau, l'a goûté du bout des dents. Quand Héro est arrivé, il ne restait du cochon rôti que des os bien rongés qu'une mouche explorait d'un air déçu. En entendant les pas du maître de la maison, Laga a vivement recouvert le plat de son couvercle et s'est rassis sagement, l'air innocent. « Oh, il y avait un de ces mondes dans la boutique !» a dit Héro en entrant. « Enfin, on peut se mettre à table. J'espère que le cochon n'a pas trop refroidi. » Il a enlevé le couvercle et a vu une mouche qui s'envolait, ne laissant que des os bien nettoyés. Héro en est resté pantois. Eh bien, vous y allez fort quand vous vous y mettez. Je sais bien, tant qu'à pêcher, autant en prendre pour son plaisir. Mais quand même, vous auriez pu me laisser un jambonneau. Vu les circonstances, le reproche était modéré. Il n'empêche que Laga l'a très mal pris. Il a crié : De quel droit m'accuses-tu d'un pareil péché ? Cette sorte de viande, je n'y toucherai pas, même si elle était cuite dans du miel. « Elle est bonne, celle-là, » dit Héro. « Alors, qui l'a mangé, mon beau cochon rôti ? Qui l'a mangé, hein ? C'est peut-être le chat ?»« Ce n'est pas le chat, c'est la mouche. Elle s'est envolée quand tu as découvert le plat. C'est elle qui a mangé ton... enfin, ce que tu dis. »« Ma parole, il se fiche de moi par-dessus le marché !» s'est exclamé Héro. « Eh bien, puisque c'est comme ça, allons chez le juge, chez votre cadi. Il dira ce qu'il en pense de toute cette histoire. » Le juge turc a écouté la plainte d'Héro. Horrifié, il s'est tourné vers Laga. Serait-il possible ? Cet homme dirait vrai. Vous avez réellement mangé la chose sale. Mensonge, a glapi Laga, mensonge et calomnie. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à ce qu'il est interdit de toucher. C'est la mouche seule qui a tout mangé. Ah, vous me soulagez d'un épouvantable doute, a dit le cadi. Oui, naturellement, c'est la mouche qui est coupable. Coupable de vol, de dol et du dommage causé. Et s'adressant à Héro, le juge a déclaré : Cette mouche est coupable et je la condamne. Tu as le droit de la poursuivre en tout temps et en tout lieu et de la châtier à ta guise, l'emprisonner ou la tuer, comme il te convient. Laga souriait. Héro a demandé : Alors comme ça, cette mouche criminelle, je peux l'exécuter en... Comment dites-vous cela ? En tout temps et en tout lieu, parfaitement, a confirmé gravement le juge. Bon, alors je l'exécute sur place. Visant une mouche qui se posait sur le turban de Laga, Héro lui asséna un coup de bâton à assommer un bœuf. Laga s'écroula en poussant un cri d'agonie. Et le cadi hurla : Criminel, assassin, tu as frappé un haut dignitaire, tu vas payer cher ton crime. Quel crime ? A dit Héro. J'ai exécuté votre sentence. J'ai tué la mouche condamnée par vous. Ma mouche. Que le crâne de l'aga se trouvait juste dessous, ça ne change rien à l'affaire. En tout temps et en tout lieu, c'est vous qui l'avez dit. Et Héro est parti en sifflotant. Il avait perdu un cochon de lait, mais il s'était payé la tête de deux Turcs. Et cela valait bien un sacrifice. Un conte libanais nous donne l'origine du nom d'un plat délicieux. Au temps du Grand Empire ottoman, quand le sultan régnait sur les trois quarts de la Méditerranée, vivait dans la montagne Druze un paysan qui avait une femme si belle qu'en voyant la trace de ses pas, les hommes devenaient fous d'amour. Un pacha vit la femme et l'a voulu pour son harem. Que peut le poussin contre l'épervier ? Que peut un paysan contre le puissant pacha ? Pourtant, le druze voulut lutter pour garder sa femme. Il alla se plaindre au sultan. Le sultan interrogea le pacha, et celui-ci nia tout. « Cet homme ment, ou il est fou ! La femme est à moi ! J'ai 10 témoins prêts à le jurer !»« En auriez-vous 10 000 qu'ils seraient tous parjures ?» disait de son côté le paysan. « C'est ma femme à moi !» et que noircisse la face de qui dira le contraire. Ah, le sultan était embarrassé. Il ne souhaitait pas désobliger le riche pacha, mais n'avait pas non plus envie d'irriter les druzes qui venaient à peine d'être pacifiés et pouvaient encore lui créer des ennuis. Il dit à son vizir, « Si seulement je savais à qui cette femme appartient réellement, je le proclamerais bien haut. Le faux époux, couvert de honte, ne pourrait protester. » « Pourquoi ne pas interroger la femme, seigneur ?» proposa le vizir. Mais le sultan soupira. « J'y ai pensé et j'ai renoncé. Vois-tu, ce paysan est jeune et beau. Oh certes, le pacha compense son absence de séduction par de grandes vertus. Du moins, je l'espère. Mais les femmes sont frivoles et il leur arrive de mentir. » Le vizir reconnut que son maître n'avait pas tort. Et tout à coup, il s'écria « Seigneur !» Il y a un moyen très simple de savoir la vérité. Il suffit de prendre ce qu'il y a comme victuaille dans la maison du paysan et d'ordonner à la femme de faire avec cela un repas de fête. Mais alors, qu'arrivera-t-il ? Je ne comprends pas. Seigneur, la femme du pacha a 50 esclaves. Elle ne s'occupe pas de cuisine et ne saurait cuire un œuf. Une femme de paysan fait des merveilles avec rien. En goûtant le plat, vous saurez qui dit la vérité et qui ment. » Le sultan fit prendre les provisions qui se trouvaient chez le druze. Oh, peu de choses. Quelques aubergines et oignons, un peu de riz, de l'huile, un fromage de chèvre. Ah, « Qui saurait rendre mangeables ces misérables restes ?» dit le sultan. « Enfin, voyons toujours. » Et l'on laissa la femme devant les fourneaux. Quand vint l'heure du souper, les serviteurs présentèrent au sultan un plat d'argent qui contenait des sortes de petites barques noires, de tout petits caïques au bout relevé et chargés d'une odorante moisson d'or. Les barques étaient faites de moitié d'aubergines, remplies d'une farce mystérieuse, dont la croûte, gratinée au four, promettait 1000 délices. Le sultan tendit la main, huma, goûta et s'évanouit de plaisir. Au vizir qui s'empressait inquiet, il dit, les yeux clos, ah, « Laisse-moi savourer ce mets qui vient des jardins d'Allah. » Le sultan mangea tout et il dit au vizir, « Si ton raisonnement est juste, le pacha est un vil menteur. De toute façon, une femme capable de créer un tel plat est digne de choisir qui elle veut pour mari. » Et la femme fut rendue à son époux légitime. Le pacha, la face noircie de honte, fut chassé. Et afin que demeure à jamais la mémoire de ce fait remarquable, un pauvre qui avait le droit pour lui et gagna son procès contre le riche et puissant, l'on donna au plat d'aubergines farcies et gratinées le nom de Imam Bayaldi, ce qui veut dire « le sultan s'évanouit ». Si bien qu'aujourd'hui encore, ou dans n'importe quelle auberge de Liban, de Turquie, voire de Grèce, vous trouverez le plat délectable nommé « le sultan s'évanouit ». Et pour terminer, un conte laiton. Le fils du vieux Janis donnait bien du souci à son père. Petit, il ne faisait pas grand-chose. Et devenu grand, il n'a plus rien fait du tout. Aucun travail ne lui plaisait. Aucun métier n'était de son goût. Jardinier, oh, la terre est trop basse. Couvreur, les toits sont trop hauts. Forgeron, c'est salissant. Bûcheron, ah, c'est fatigant. Pêcheur, on n'est jamais à la maison. Tailleur, on ne sort pas de chez soi. Et ainsi de suite. Finalement, Janis lui a mis le marché en main. Ou il prend un métier, ou il prend la porte. Et débrouille-toi, mon garçon. Ah, du coup, le garçon s'est décidé. Je me suis trouvé un métier, papa. Je vais me faire voleur de bétail. De saisissement, le vieux a failli avaler sa chique. Mon fils, devenir voleur, mais qui a bien pu te mettre une pareille idée dans la tête? Personne, papa. J'ai trouvé ça tout seul. C'est un travail propre, facile. Il y a plein de vaches dans les prés que personne ne garde. Et comme ça, on est sûr de se faire des joues, à manger de la bonne viande. Le garçon, il faut dire, était porté sur la table. Il ne fallait pas lui en promettre. Le père a réfléchi, puis il a dit « Si c'est ton idée, fiston, fais comme ça. Seulement, je veux être sûr que ce métier-là te convient. Alors, pour la première fois, je viendrai avec toi, voir comment tu t'y prends. » Ça fait que le lendemain, ils sont partis ensemble à la pointe du jour. Un bœuf paissait dans le pré, il n'y avait pas une âme aux environs. Le gars a dit « Regarde, papa !» Il a sauté la barrière, a mis une corde au cou du bœuf et l'a emmené. Oh, pas plus difficile que ça. Le père a approuvé. « Beau travail, fiston. Par devant, moi je vais traînailler par ici des fois qu'on t'aurait vu. Alors je donnerai de fausses indications, tu comprends ?»« Merci, papa. Mais personne n'a rien vu. » Il n'empêche que cette idée tracassait le garçon. Il se retournait à chaque pas, voir si personne ne le suivait. Il transpirait d'angoisse. Revenu chez lui, il avait les jambes molles, le cœur qui battait. En rentrant, son père n'a parlé de rien. Mais quand le bœuf a été tué, dépecé, la viande cachée et le pot-au-feu en train de mijoter, le vieux Janis a dit « Je veux savoir si vraiment cette viande-là te profite. Arrive ici, je vais prendre nos mesures. » Il a mesuré avec une ficelle le cou de son fils et son propre cou. Après, ils se sont mis à table. Le vieux mangeait de bon appétit, mais le fils guettait la porte, sautait en l'air au moindre bruit, et la nuit, il ne dormit guère. Et ça a continué. Le père se régalait, le fils tremblait. Quand tout le bœuf volé a été mangé, le vieux a dit « Voyons voir si cette viande t'a bien profité. » Et il a repris les mesures. Résultat, son cou avait grossi du double, le cou du fils avait maigri de moitié. Oh, le fils n'y comprenait rien. « Mais d'où ça vient? On a pourtant mangé pareil. » « Pareil et pas pareil. Toi, mon gars, tu mangeais de la viande volée. » Et comme on dit, le poulet volé crie au secours dans le ventre. « Dis donc, papa, toi aussi tu en mangeais du bœuf volé. » « Que non pas. Ce bœuf, du temps que tu le ramenais à la maison, Je l'avais payé au propriétaire. Et je m'en vais te dire une bonne chose, fiston. Ce métier-là, ce n'est pas un métier pour toi. Qui a peur ne se fait pas voleur. Ce que le vol te donne, la peur le mange. Et si tu t'obstines, cette peur-là te rongera jusqu'à l'os. Ah, le gars a écouté. Il a suivi le conseil de son père. Il ne vole plus les bestiaux dans les pâturages. Il les vend à la livre parce qu'il s'est établi boucher. De la bonne viande. Il en mange tant qu'il veut et sans craindre les gendarmes. Et ça lui profite. Dernière nouvelle, paraît qu'il allait sur les 100 kilos. Ben non, c'est pas tout à fait fini alors, puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vais vous parler de l'hydromel de Bruyère. Ah oui, mais depuis des siècles et des siècles est perdu le secret de l'hydromel de Bruyère, la boisson sacrée des Pictes. Plus doux que le nectar, plus enivrant que l'ambroisie, était ce breuvage magique. Les Pictes, petits hommes farouches qui vivaient dans les cavernes, brassaient l'hydromel de Bruyère qui leur donnait des forces inconnues des autres peuples. Est venu le roi d'Écosse. Implacable à ses ennemis. Il a fait la guerre aux Pictes, les a exterminés jusqu'au dernier. Oh, vaillamment combattaient les petits hommes, mais ils ont succombé sous le nombre. Tous y sont restés dans la lande. Le vivant gisait sur le mort gisait sur le vivant. Et à l'aube, il n'y avait plus de Pictes. Le printemps revient en Écosse. La bruyère refleurit dans la lande. Mais personne ne récolte le miel. Personne ne brasse la boisson sacrée. Il n'y a plus de Pictes sur la terre. Les hommes du roi d'Écosse, avec des cris de joie, lui ramènent deux petits hommes farouches, un vieillard bossu à barbe grise et un adolescent imberbe. Dans une caverne sous la terre s'étaient cachés les deux derniers Pictes, le jeune fils et son vieux père. Et leur parle le roi d'Écosse. « Vous, du peuple anéanti les vestiges, je vous offre ma grâce royale. Donnez-moi le secret de vos ancêtres, le secret de l'hydromel de Bruyère. » Et tous deux, vous aurez la vie sauve. Vous vivrez en paix dans la lande. Il y aura encore des Pictes sur la terre. Le vent passe sur la bruyère. La bruyère doucement murmure, mais se taisent les deux derniers Pictes. Restent muets le fils et le père. Ah, de nouveau parle le roi d'Écosse, et sa voix gronde, menaçante. Puisque vous refusez ma grâce, ce sera donc la torture. Le secret que n'obtient pas la clémence, la douleur saura bien l'arracher. S'est troublé alors le vieux Picte. La peur a assombri son visage. Il a dit au roi à voix basse, « Éloigne mon fils et tes hommes. Roi, ce que j'ai à te dire, tes oreilles seules doivent l'entendre. » Sur un signe du roi s'éloignent ses guerriers, emmenant le jeune Picte, et parle le bossu à barbe grise. La vieillesse craint la mort si proche d'elle. Je voudrais acheter ta clémence, mais me fait peur la présence de mon fils. La jeunesse se rit de la mort et méprise qui cède à la crainte. À mon fils, fais lier bras et jambes, précipite-le dans la mer de la falaise. Alors je serai tranquille, je n'aurai plus ni peur ni honte, je te parlerai en homme libre. Et le roi a fait encore un signe. Ses guerriers ont entravé le jeune Picte, de courroies de cuir ont lié ses bras et ses jambes, l'ont jeté du haut de la falaise. Et quand sur lui la mer s'est refermée, le vieux Picte a levé la tête. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux et sa voix sonnait ferme et claire. Roi, je n'ai pas dit de mensonge. J'avais peur de mon fils si jeune. La chair tendre de l'adolescence supporte mal la torture. Peut flancher l'âme non aguerrie, peuvent parler les lèvres trop douces. À présent, je suis fort et tranquille. Il n'est pas de torture au monde qui saurait m'arracher une parole, un seul mot du secret des Pictes, du secret de la boisson sacrée, notre hydromel de Bruyère. Reviennent les étés en Écosse. Chaque été refleurit la lande. Le vent passe sur la bruyère. Doucement, la bruyère murmure « Il n'y a plus de boisson sucrée, il n'y a plus de Pictes sur la terre. » Eh bien, j'espère que votre appétit de conte n'est pas rassasié. Alors, à une autre fois.